L'erreur est humaine.
Bonjour, il est 10h, vous écoutez L'erreur est urbaine sur les ondes de 48FM, l'émission mensuelle proposée par Urbagora qui parle de la ville. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs pour l'absence d'émission le mois passé. Les contraintes de temps et l'énergie disponible n'étaient pas suffisantes pour pouvoir enregistrer dans des bonnes conditions et plutôt que de bidouiller quelque chose à la va-vite, on a préféré passer sur ce mois pour revenir aujourd'hui avec une émission un peu plus cohérente pour la dernière de la saison. Alors, très peu de chroniqueurs aujourd'hui pouvons plus se rendre disponibles pour l'enregistrement, sinon nous n'aurons que la chronique de Pavel qui viendra nous parler de l'eau qui tombe du ciel et de si ça a pu être important ces derniers jours à Liège. Et s'en suivra ensuite un très long dossier consacré au vélo. Tout ça notamment parce que l'Urbagora travaille sur la mobilité, mais aussi parce que les événements qui ont survenu lors des deux dernières masses critiques, qui ont été assez symptomatiques de quelque chose. Et j'ai la chance de recevoir une première fois deux invités qui sont Mathieu Bossir, qu'on connaît ici pour ses chroniques à roulette, et qui revient ici en tant que travailleur chez ProVélo, ainsi que Patrick Jacquemin, qui est membre de la locale du GRAC. Et dans un deuxième temps, nous recevrons Pierre Franquignoul, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Ville et vélo, histoire d'une reconquête » et qui a travaillé en fait autour d'une exposition organisée il y a 2 ans par le Musée des Transports sur la thématique justement du vélo. Donc, avant de commencer, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance et de bonne humeur avec un très très beau morceau d'un monsieur qui s'appelle Daniel Waro et qui est un poète et chanteur réunionnais. Et on va écouter tout de suite son morceau, ça s'appelle Mandela.
C'est en cas où tu demandes là que l'armana qui s'est de la main à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité, oui, à mon amour? C'est en cas où tu demandes là que l'armana qui s'est de la main à moi. Quelle est la dignité, Mandela? Quelle est la dignité, oui, à mon amour? Quand même, pour les remandela, non, tu l'as pas soufflé, tu la mets à moi. Quelle est la dignité, Mandela? Quelle est la dignité, oui, à mon amour? Quand même, pour les remandela, non, tu l'as pas soufflé, tu la mets à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité, oui, à mon amour? 27 ans qu'a sauté Mandela, quelque l'armana qui s'est de la mettre à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité, oui, à mon amour? C'est en cas où tu demandes là, c'est que l'armana qui s'est de la mettre à moi. Ben c'est en cas où tu demandes là, c'est que l'armana qui s'est de la mettre à moi. Vous demandez là que la lina nasa, la 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 nita.
La.
L'erreur est urbaine.
Et nous sommes toujours sur les ondes de 48FM, vous écoutez L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle consacrée à la ville. Et comme quasi tous les mois en fait, j'ai le grand plaisir et la grande chance de recevoir mon collègue Pavel qui nous vient avec une chronique qui parle de flotte, si je ne m'abuse.
Tout à fait Baptiste.
Eh ben vas-y.
Plic, ploc, font les gouttes sur les carreaux.
Qui est poète en plus.
Plicky-diplop, 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 fait la drache sur les toitures mal isolées. Ah non, pas encore, font les liégeois face à leur cave à nouveau inondée. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de pluie, ou en tout cas d'eau. Il faut dire que dernièrement, on n'a pas été gâtés. Entre les boulevards sous eau, les escaliers de Buren transformés temporairement en cascades, pour le plus grand plaisir des Instagrammeurs de tout poil, et effectivement, les nombreuses caves inondées, les pompiers auraient eu à gérer entre 150 et 200 interventions. En cause ? Le dimensionnement des canalisations d'évacuation, apparemment. Au moins, cela nous permet-il de nous replonger dans une vision de Liège qui plaira aux nostalgiques. Mais oui, cette eau torrentielle qui parcourt la ville ne rappelle-t-elle pas les biais et autres bras de Meuse qui parcouraient la cité ? Les voitures embourbées pourraient même être de petites embarcations bariolées. Car ne l'oublions pas, Liège est une ville d'eau. Avec le passage de la Meuse, bien entendu, mais également l'embouchure de l'Ourthe. Sans même compter qu'elle tire son nom directement du ruisseau de la Légia. Jusqu'au XIXe siècle, les habitants vivaient avec et la ville était une sorte d'archipel dont on aperçoit encore des traces dans les noms des rues, qu'ils soient Pont-d'Ile ou Davroy. Mais la révolution industrielle est passée par là. Les bateaux se font plus gros, ont besoin de plus de place, les biais des moulins sont sous-utilisés et leur eau stagnante alimente les épidémies diverses et variées. Tandis que les inondations, encore elles, sont une menace constante pour la vallée. Qu'importe, la technique est là et les gouvernements ont de l'argent. Canaliser ce foutoir que je ne saurais voir. 10 petites années suffiront à transformer fondamentalement le tissu urbain de la ville. De 1853 à 1863, le canal de la dérivation est ainsi creusé. La Meuse canalisée, tandis que sont asséchés ses nombreux bras. Laissant la place pour créer les grands boulevards si propres à l'époque, la Constitution, Avroy, Sauvenière. Le progrès est en marche. Plus rien ne peut arrêter ni engloutir la cité ardente. Et si cela permet de libérer au passage quelques centaines de terrains à vendre au profit des autorités publiques, après tout, on ne va pas cracher dessus. Pétard mouillé cependant, puisque déjà en 1862, les journaux déclarent que l'on n'a jamais vu une crue aussi rapide. Toute la vallée de la Meuse, depuis Dinan jusqu'à Maastricht, est complètement inondée. Elle présente le spectacle d'une immense nappe d'eau qui s'étend jusqu'au pied des montagnes. Un grand nombre d'habitations ont été envahies, des campagnes ravagées, des bestiaux noyés. On s'en sort plutôt bien, nous, au final, avec nos caves humides. Mais cette inondation historique est dite relevée de la fonte particulièrement rapide des neiges des Vosges et la célébration des travaux nouveaux continue. 1880 verra déjà une trentaine de centimètres d'eau recouvrir les boulevards, mais c'est 1926 qui soulignera les manquements de ces travaux. L'industrie a fait son chemin dans la région et les mines ont ainsi creusé la terre. 6 semaines de précipitations aboutissent en un pas si joyeux nouvel an, qui aura alors raison des infrastructures. La Meuse est torrentielle, se jette contre les berges et recouvre jusqu'à 1,50 m à Liège, 3 mètres à Serein, et donc dans les usines Cockerill, mises à l'arrêt. C'est scandaleux, on ne peut plus accepter cela, s'exclament les Liégeois. Grand coup de porte-monnaie publique, encore une fois, et ainsi seront bâtis les barrages de Ivoramé et de l'île Mont-Saint, et les stations de pompage. Mais si, les stations de pompage, ces petits édifices le long de la Meuse, qui vous intriguent à chaque fois que vous passez devant. Numéro 5, numéro 14, numéro 30, mais qu'est-ce que c'est, un jeu de piste ? Il s'agit en fait d'une série d'infrastructures en chaîne permettant de maintenir le niveau de la Meuse, et de la dérivation, à un niveau plus ou moins constant. Une architecture faite pour durer, pour des siècles et des siècles. Une entreprise terriblement ambitieuse, encore une, de domestication de la nature par l'homme, pour permettre ses activités. C'est à partir de ce moment que les berges pourront être véritablement habitées et construites, des anciennes maisons bourgeoises aux grands immeubles d'appartements que l'on connaît. Après tout, ces terres sont sûres maintenant, et une vue sur le fleuve, c'est tellement beau. J'habite sur le quai de la dérivation. C'est vrai que c'est beau la vue du 8e étage. C'est vrai aussi, cependant, que, pas plus tard que la semaine dernière, ma voisine s'est retrouvée coincée dans un ascenseur qui se remplissait peu à peu d'eau. Plic, ploc, 50 cm. Plicky-diplop, 1 mètre. des cris d'appel à l'aide, un boîtier qui cesse de fonctionner, 1m50. Elle en a réchappé, rassurez-vous. Pour autant, cela montre bien la fragilité des grands systèmes d'infrastructures de ces grands travaux, maintes fois encensés et si peu interrogés. Cela montre aussi que de tels systèmes demandent une attention permanente et un entretien régulier. Ces jolis petits bâtiments que sont les stations de pompage ne sont pas qu'une curiosité dans le paysage. Peut-être faudrait-il se préoccuper de leur état. Ou alors tout démolir et rendre à la vallée son cours naturel. Après tout, une vue sur le fleuve, c'est tellement beau.
C'est super beau et ça me fait penser, figure-toi, à une discussion qu'on avait organisée dans le cadre d'Avril en Ville, justement sur la Meuse comme paysage, dans lequel on avait invité plusieurs intervenants à donner leur expérience particulière. Donc on avait un historien géographe, un historien de la géographie précisément, qui a fait cette thèse sur une monographie de la Meuse, une thèse qu'il a défendue à l'université de... enfin en France, dans l'université d'Artois, je crois, parce que l'Artois se sent très concerné par la Meuse. Et il y avait Rita Occhiuto aussi, qui est une paysagiste assez connue, un rameur, et j'oublie quelqu'un, je ne sais plus, un représentant du club d'aviron, et un poète. Et en fait, c'était assez chouette parce que ça montrait, enfin tout le propos de cette discussion était vraiment de montrer que la ville a un peu nié son fleuve, ou en tout cas, on s'est protégé derrière une artificialisation, justement par les canaux, par les stations de pompage, qui ont éviter les qui essayent de limiter en tout cas au maximum les crues, mais pour autant on oublie ce qu'était le paysage liégeois à l'époque, et notamment devant la Grand Poste avant il n'y avait pas de mur d'eau, hein, c'était vraiment un dénivelé en pente douce et où les bateliers venaient amarrer leurs bateaux, et la vieille poste la Grand Poste était vraiment sur la Meuse, quoi. Et enfin voilà, je fantasme un peu moi sur cet élément aquatique que sont les fleuves et les dangers qu'ils représentent parfois, mais aussi l'aspect poétique et leur importance dans la vie quotidienne qu'elles ont pu avoir. Merci Pavel pour cette belle chronique.
De rien, Baptiste.
Et pour continuer, on va écouter un très beau morceau de Gaël Faye, ces petits pays.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson, l'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya, wala punweni wafouye, wala goweni wagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu ris, je ris. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Et donc le dossier du jour est consacré à un sujet qui touche un paquet de monde à Liège et qui surtout, et c'est ça l'enjeu, devrait toucher beaucoup plus de monde à Liège, c'est la question du vélo. Alors j'aurai trois invités pour cette discussion. J'ai d'abord Mathieu, salut Mathieu.
Salut Baptiste.
Qu'on connaît ici puisqu'il nous fait des très belles chroniques où il fait du plagiat éhonté ou alors il parle de sa grand-mère, mais qui surtout travaille chez ProVélo et est un cycliste régulier voire plus, un militant du vélo et qui du coup est assez au fait des réalités cyclistes à Liège. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Patrick Jacquemin qui lui est militant du GRAC.
Bonjour.
Salut. Le GRAC étant le groupe des cyclistes du quotidien, c'est quoi l'acronyme exact?
C'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens.
Voilà, c'est ça. Et donc qui est structuré au niveau national et par des locales. Et donc toi, tu milites à la locale de Liège.
Bénévole à la locale de Liège, oui.
Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, pour la deuxième partie de ce dossier, nous recevrons Pierre Franquignol, qui est historien de la ville et qui a contribué à mettre en place l'excellente expo vélo qu'il y avait il y a quelques années au musée des transports en commun. Alors, pour commencer un peu ce dossier, j'ai envie de repartir d'un épisode récent du vélo à Liège, un peu médiatique, un peu porteur, comme ça, c'est la masse critique. Donc le 27 avril, dans le cadre d'Avril en ville, on avait annoncé la masse critique qui a lieu depuis 10 ans, tous les mois à Liège. Cette masse critique s'est très mal finie puisqu'il y a un excès de zèle, a priori, d'un officier de police a fait que tout le monde s'est retrouvé arrêté, identifié. Ça a donné lieu à une certaine mobilisation qui a fait que le mois passé, au dernier vendredi du mois de mai, il y avait plus de 600 personnes à la masse critique. Vous y étiez ?
Oui. Et non, je travaillais.
Moi, j'y étais pas non plus. Et peut-être un petit mot pour expliquer pourquoi, c'est quoi déjà cette masse critique ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça revendique ? Et pourquoi il y a un besoin de cette masse critique aujourd'hui ? Je sais pas qui veut répondre.
Moi, je peux le faire si tu veux.
Vas-y, je t'en prie.
Bah, la masse critique, c'est un mouvement qui est parti des États-Unis, de San Francisco en fait, qui est parti il y a, je dirais, 25-30 ans.
Et, en 92, oui.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, ça fait 26 ans bientôt. Et donc l'idée, c'était de militer contre la pollution à San Francisco, parce qu'on était au débouché d'une politique tout auto, etc. À la mode États-Unis, quoi, donc assez sale. Donc les gens ont commencé à se bouger et à se dire, on va se réunir tous les derniers vendredis du mois à telle heure pour militer. Et ensuite, ça a pris des proportions assez grosses et les revendications ont changé en fait au fur et à mesure. Et c'est devenu plus une déclaration d'indépendance des cyclistes en disant bah nous on existe dans le trafic et on a notre place et donc on va revendiquer cette place. Voilà.
C'est ça. Et le nom de Masse Critique, ça vient de l'hypothèse comme quoi à partir d'un certain nombre de cyclistes, ce mode de transport là est suffisamment visible ou en tout cas ne peut plus être ignoré et donc on a un impact suffisant sur les politiques de mobilité à l'échelle urbaine, c'est ça?
Et surtout pour le cycliste, ça apporte une certaine sécurité. Le fait d'avoir un certain nombre, on est vu, les automobilistes sont habitués. C'est vraiment la masse critique qui permet d'avoir plus de sécurité pour le cycliste.
Ouais, c'est ça. Et alors, la question sous-jacente, c'est donc la masse critique d'avril à Liège, il y avait 70 personnes, ce qui est beaucoup pour la masse critique, ce qui est peu, en fin de compte, au regard du nombre d'habitants de l'agglomération de Liège. La suivante, il y a eu plus de 600 personnes, ce qui, là, devient tout de suite assez conséquent, évidemment. Et pourquoi? Juste par énervement des gens ou parce qu'il y a un enjeu réellement de développer le vélo et que ça touche un paquet de gens à la masse critique?
Bah, je pense que c'est les deux. Dans un premier sens, il faisait beau et le Liégeois est un peu frondeur. Donc quand la police dit « nous, on peut pas », ben, on peut. Donc du coup, je pense que ça a rassemblé pas mal de gens. Ce qui était très agréable, c'est qu'il y avait monsieur, madame, tout le monde. Enfin, il y avait vraiment, c'était assez hétéroclite et le climat était vraiment très, très, très détendu. Donc c'était vraiment très intéressant. Et l'autre chose, c'est nous, on se rend bien compte en tant que militants, c'est que les gens veulent plus de place pour le vélo. Ils veulent pouvoir se déplacer autrement en ville, quoi, clairement. Donc ça, on le ressent, nous, clairement, qu'il y a une demande. Les politiques commencent à le comprendre, mais ils sont quand même toujours un petit peu en retard à ce niveau-là. Mais il y a vraiment une grosse, grosse demande.
Pourtant, quand on se promène à Liège à pied ou en voiture, mais alors en voiture, évidemment, on ne voit que ça, les cyclistes. Mais parce que quand on est automobiliste, moi qui viens de la campagne, quand je roule et que je vois les cyclistes sur les voies étroites, ça m'énerve fatalement, même si je sais que je ne devrais pas. Mais il y a du cyclisme à Liège aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui roulent à vélo à Liège. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en quantité, en volume? Est-ce que les infrastructures sont suffisantes? Est-ce que les infrastructures existent? Je pose des questions à la con, je connais les réponses, mais en tout cas, je connais pas la réponse de la part modale. Est-ce qu'on a une idée de combien de gens roulent à vélo à Liège?
Alors, dans le plan communal de mobilité, elle est estimée à entre 2 et 3%. Donc depuis 2004, elle est estimée à 2-3%. Et malgré les plans et les investissements, enfin l'investissement peut mettre... Enfin non, il y a quand même eu des investissements. La part modale n'a pas vraiment augmenté. Donc on est toujours dans ces 2-3%. Et c'est d'ailleurs un des créneaux du GRAC, c'est d'atteindre une certaine masse critique. Et nous, pour nous, c'est avoir des objectifs de 10%. Et donc des investissements qui permettent d'atteindre 10%.
Et comment on fait pour arriver à 10%?
C'est très simple. Un petit peu d'ambition et des budgets crédibles.
Ouais.
Voilà. Pour le reste, la ville a déjà tout ce qu'il faut. Elle a du personnel compétent, elle a une madame vélo, des conseillers en mobilité. Elle a un plan communal de mobilité, elle a un plan communal cyclable. On y a participé, il est bien fait. Enfin, il n'est pas bien fait parce qu'on y a participé, mais parce qu'il a été réfléchi par beaucoup d'acteurs. C'est vraiment un consensus et il est très ambitieux. Et depuis très longtemps, il y a l'objectif des 10% qui sont là. Et donc, l'objet, il est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à le traduire. Et le problème qu'on voit par rapport aux dernières élections, c'est que sur la législature, ce qui nous avait été promis, seulement 30% de ce qui était promis était réalisé.
Ok. Ce qui est évidemment assez peu. Et j'ai peut-être envie de revenir un peu aux fondamentaux pour les quelques auditeurs que nous avons quand même. N'en déplaise à Mathieu qui passe son temps à dénigrer cette émission. C'est plan. Alors on parle de plan Wallonie Cyclable, on parle de plan communal de mobilité. Il y a une Madame Vélo à Liège, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit topo, un peu descriptif de qu'est-ce qui structure la mobilité vélo au niveau institutionnel aujourd'hui à Liège? Qu'est-ce qui existe comme infrastructure? Qu'est-ce qui existe comme plan? Comment c'est développé? Qui les crée, etc. Mathieu?
Moi, j'ai pas une vision forcément exhaustive de ce qui se passe à Liège. J'ai juste les gens avec qui je peux avoir des dialogues. Mais souvent, ce qu'on oublie aussi, c'est les entreprises. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le CHC qui s'ouvre et le CHC a un plan assez ambitieux de politique vélo qui s'est plus ou moins goupillé avec du politique, je pense. J'ai cru voir des choses de Firquet qui parlait de piste cyclable pour aller jusqu'au CHC, etc. Donc là, c'est assez structurant pour la ville quand il y a des gros projets d'entreprise parce que les politiques, ils aiment quand même bien ça. Quand il y a des sous-sous en jeu et que eux ils n'ont pas à faire le boulot pour créer une dynamique cyclable. Après, bah voilà, il y a la nouvelle Madame Vélo qui vient d'arriver.
C'est quoi son job à elle exactement?
Normalement, c'est mobilité douce, mais je crois que a priori c'est quand même plus spécialisé pour le vélo. Et globalement, ça va être moi ce que j'en vois en tout cas beaucoup de gestion des dossiers, notamment du projet Vélocité de la ville de Liège. Donc ça pompe pas mal de temps à tout le monde. Et tant mieux, parce que c'est un projet qui réussit bien, donc c'est assez chouette.
En deux mots, tu peux expliquer ce qu'est le projet Vélocité?
L'idée, c'est de donner aux Liégeois une possibilité de louer un vélo pour du long terme, donc maximum un an, minimum 3 mois, à des prix qui sont assez démocratiques, c'est-à-dire de 30 euros pour 3 mois jusqu'à 80 euros l'année. Donc c'est un vélo qui va appartenir à la personne pendant tout ce laps de temps, et puis va être entretenu par ProVélo, parce qu'on est en convention avec la ville de Liège, et donc il n'y a pas 1 euro à débourser en termes d'entretien de vélo. Et donc 80 euros, en fait, ça correspond plus ou moins à la TAP du budget qu'on met dans un vélo chaque année, en fait, pour l'entretenir, en tout cas. Et encore, 80 euros, c'est peu, pour beaucoup, c'est plus que ça.
Ouais, donc si je résume, on a une fonctionnaire qui est la Madame Vélo, on peut peut-être citer son nom si on le connaît.
Claire Schmitt, oui.
Ouais. On a une Madame Vélo qui est en charge pour l'administration de la gestion d'ensemble des politiques de mobilité douce. On a les Vélocités, donc la ville qui met en place un système de prêt, enfin de location de vélos à bas prix, en partenariat avec ProVélo. On a le plan de mobilité cyclable, c'est ça?
Oui, le plan communal cyclable, le plan communal de mobilité. On a aussi des conseils en mobilité hein, au sein de l'administration, dans les services de voirie et autres. Services et travaux, la police aussi, il y a des conseillers en mobilité, il y a des bureaux d'études qui accompagnent chaque fois la réalisation des plans communaux de mobilité, des plans communaux cyclables. Donc les choses, elles sont là, clairement, pour nous. Ce qui manque, c'est une vision, un projet et un homme politique qui les porte. On remarque dans les villes où des villes deviennent cyclables, c'est à chaque fois un homme ou deux hommes. Enfin, quand je dis homme, c'est, je parle pas de genre, mais des membres de la classe politique qui ont une vision, un projet et qui l'amènent quelque part. Et c'est pas attendre des subsides de la région wallonne, c'est vraiment aller chercher des sous, mettre des sous sur la table et avancer. Parce que ce qui manque à Liège, en fait, c'est un budget crédible qui permette de faire des aménagements. La question tout à l'heure était de savoir, par rapport à la masse critique, 600 personnes, les cyclistes sont là. Le potentiel, il est là. Là, on a 2-3% de cyclistes. On est on a appelé des pionniers. Ce sont des gens qui osent pour l'instant aller à vélo en ville parce qu'ils se sentent à l'aise. Mais on sent qu'il y a un potentiel. On peut facilement aller chercher 10%, surtout quand on voit le relief de la ville. On peut aller chercher un potentiel. Mais pour ça, il faut des aménagements sûrs, directs, continus. Et ça, tant qu'on les a pas, on restera à 2-3%.
On va refaire un petit point un peu plus tard sur la question des aménagements. Tu parlais de relief, moi ça m'intéresse parce que quand on pense à Liège, donc évidemment il y a ce fond de vallée qui lui est tout à fait adapté à la pratique du vélo. Par contre, je pense quelqu'un qui travaillerait à la Citadelle en habitant à Cointe ou l'inverse, enfin n'importe. Là tout de suite on a quand même du gros dénivelé, donc c'est quand même c'est quand même une contrainte pour le développement du vélo, non?
Ben oui et non. Donc pour l'instant le GRAC est en train de faire, Julien Charlet est en train de faire un très bel article sur le relief et l'usage du vélo pour dire que ce n'est plus un frein. Un vélo sur deux qui se vend en Belgique maintenant est un vélo électrique. Après, c'est peut-être une question de budget pour que chacun puisse en avoir un. Le relief aussi, c'est une question d'habitude. C'est le fait de faire régulièrement un trajet à la fin, on est capable de le faire. Et puis aussi, c'est le choix des itinéraires. Parfois, un itinéraire un peu plus long est un peu moins pentu. Voilà, les solutions sont là et pour nous le relief avec l'assistance électrique devient de moins en moins un frein, clairement. Donc on a l'impression que le relief maintenant est en train de s'aplatir et on se rend compte que le potentiel est là, surtout quand on sait qu'à Liège 50% des trajets font moins de 5 km.
Oui, c'est sûr que ça relativise. Et les 2-3% de part modale, c'est 2-3% de part modale en usage quotidien, c'est-à-dire c'est 2-3% des gens qui se déplacent à Liège pour leur travail ou en tout cas au quotidien qui utilisent le vélo.
Travail, loisir.
Ça comprend aussi le loisir, ça comprend aussi les trajets occasionnels.
Ces chiffres, je pense, sont issus des comptages qui sont faits 2-3 fois par an le matin.
Moi, je suis un peu critique sur les chiffres de part modale parce que justement, on n'a que ça comme filtre d'analyse. Donc, c'est des gens motivés qui vont venir compter avec la ville de Liège. D'ailleurs, je pense qu'il met des stewards aussi à disposition pour faire du clic-clic. Mais c'est... C'est assez peu représentatif, je pense. C'est vraiment un instant T sur quelques fois par an, on va compter des gens qui passent à des points très précis. Donc c'est quand même à qui fait des statistiques, on peut vite voir des biais arriver. Ça veut dire il fait pas beau et voilà, ce jour-là, ben on a personne qui fait du vélo et le vélo c'est quelque chose de saisonnier. Là je le vois, on a juste la semaine dernière on avait peut-être 40 personnes qui ont passé la porte. Ben lundi sur un après-midi on a 100 personnes qui passent la porte et tous ces gens-là sont peut-être pas forcément des cyclistes quotidiens, mais ça va être quand même des gens qui vont monter sur leur vélo assez régulièrement. Donc moi, je suis en demande, en tout cas, pour les calculs de part modale, de quelque chose d'harmonieux. Je ne sais pas comment ils font dans les autres villes. Je ne sais pas si toi, tu as une idée de comment ils arrivent à faire leur comptage, j'imagine, à Amsterdam ou...
Il y a des compteurs installés. Il y en a à Bruxelles, rue de la Loi. Hein.
C'est ça.
Tout nouveau, là.
Ça serait ouais. Top.
Après, les comptages peuvent être affinés. Je ne mettrais peut-être pas mon énergie là-dedans parce que je pense que les priorités sont ailleurs. Mais ce qu'on constate, malgré la méthode qui peut être améliorée, c'est que le chiffre n'augmente pas depuis 10 ans. Donc, pour nous, le problème, il est plutôt à ce niveau-là. Quoi.
C'est ça, le principe d'une statistique, c'est d'être intéressant pour ce que ça dit. Et ça ne faut pas lui faire dire ce que ça ne dit pas, par contre.
Tout à fait.
C'est une belle phrase qui ne veut rien dire.
Parce qu'on se rend quand même bien compte qu'il y a plein de gens qui souhaitent faire du vélo, mais à chaque fois la remarque c'est « oui mais c'est trop dangereux, on a un peu peur du trafic », ce genre de choses. Et d'ailleurs ProVélo a fait une étude après la bike expérience à Bruxelles auprès des nouveaux cyclistes où elle a demandé un petit peu quel était le frein des cyclistes à rouler à vélo quand on est nouveau cycliste. Dans le premier exemple, c'était la première raison plutôt, c'était le manque d'infrastructures. Et la deuxième, c'était la pression automobile. Donc à un moment donné, il y a trop de voitures en ville. Il y a un rééquilibrage qui doit être fait. Parce que les gens, en fait, ont peur d'être confrontés dans le trafic.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on n'a pas précisé à la base. Nous, on fait cette émission, ce dossier spécifique, en étant de toute façon de base pour le vélo. Ça, c'est à peu près clair. On invite des gens qui défendent...
Pour une mobilité fluide.
Oui, pour une mobilité douce. Non, mais ça vaut peut-être le coup de rappeler pourquoi le vélo, c'est vachement bien, en fait, dans un premier temps. Parce qu'il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu de qualité de vie, il y a un enjeu sonore, il y a un enjeu de prise dans l'espace public aussi. Enfin, est-ce qu'on sait faire une liste exhaustive de tous les avantages du vélo?
Non, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si vous allez à Copenhague, où là, on frôle les 50% de part modale, et vous demandez aux Copenhaguois pourquoi ils utilisent le vélo. En fait, pour eux, les raisons, c'est pas l'environnement, c'est pas la santé. C'est juste que c'est efficace et c'est rapide. Le reste, ils s'en fichent. Donc le vélo, il est pas de gauche, il est pas de droite. Les gens, ils s'en fichent. C'est pas pour eux. C'est juste parce que c'est efficace. C'est le pragmatisme et puis c'est tout. Et je pense que si la ville de Liège était adaptée, bon nombre de personnes prendraient leur vélo et pas juste par conviction ou parce que c'est bien pour leur santé, mais parce que c'est rapide et efficace, tout simplement.
Ouais, Mathieu. Un point de vue du défenseur de vélo.
Moi, le truc qui me touche, c'est quand même la qualité de vie. C'est-à-dire, dans son ensemble, au-delà de parler de pollution, etc., non, ça va être simplement tellement de confort à être à vélo. Quand t'es, déjà pour toi, d'un point de vue personnel, développement personnel, si on veut utiliser des gros mots, t'es bien sur un vélo. Je veux dire, quand il fait ce temps-là, par exemple, c'est hyper agréable.
On enregistre mercredi, je sais pas, samedi, au moment de la diffusion, quel temps il fera.
Il fera beau, on est en Belgique. J'ai prévu d'aller rouler, donc.
Et puis surtout, le confort sonore, tout ce qui va être pollution visuelle, stress aussi, parce que effectivement, plus il y a de vélo, moins il y a de bagnole. Moins il y a de bagnole, ben, moins on est stressé par quelque chose qui peut arriver sur le côté ou par derrière. Donc, il y a vraiment, pour moi, oui, effectivement, il y a un enjeu de qualité de vie. Et effectivement, je fais rentrer en fait le fait que ce soit rapide et efficace dans la qualité de vie, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, arriver, pouvoir se garer où on veut, pouvoir aller en environ 10 minutes partout où on veut, sans être limité par des sens uniques, des trottoirs, etc. Bah oui, c'est intéressant et ça fait partie de la qualité de vie. C'est des gens qui sont pas stressés de se déplacer en fait en ville, les Copenhaguois. C'est des gens qui vont être détendus. Ça fait des gens plus mobiles aussi, tout simplement.
Mmh. Et ça, en étant père, je trouve que c'est très important. C'est moins de pression automobile ici. Se balader à pied ou à vélo en ville avec ses enfants, mais c'est quelque chose de très compliqué et de stressant. Alors que vous allez dans d'autres villes où les choses se font naturellement, dans des villes de la même taille que Liège. C'est possible et c'est agréable. Ici, c'est assez compliqué. Venir à la place du 20 août, plus jardin botanique à vélo, c'est pas simple. Donc, si on n'est pas aguerri, c'est des choses qui sont compliquées, quoi. Donc, il faut vraiment rendre les choses très simples, très agréables
Ouais, moi il y a un autre, ça rejoint un peu ça. Moi il y a un autre argument en faveur du vélo que j'ai envie de défendre, qui est un peu peut-être la vision d'Urbagora, qui défend pas nécessairement le vélo, mais plutôt la qualité de vie en ville. C'est la place que prend la bagnole, effectivement, pas ouais. tant dans la circulation aussi évidemment, mais simplement quand il y a eu une étude qui avait été faite à Paris l'an passé ou il y a deux ans, je ne sais plus, qui montrait que 50% de l'espace public était dévolu à la voiture, que ce soit des voies de circulation, que ce soit des voies de stationnement, et c'est peu. À Paris, en fin de compte, c'est assez peu parce qu'à Paris, il y a beaucoup de sites propres pour le bus, il y a beaucoup de pistes cyclables, etc. Donc, je ne sais pas si ce calcul a été fait à Liège.
Je pense qu'IOE a fait ce calcul-là et moi, j'avais des chiffres de 90% Wallonie, d'espace public réservé à la voiture, oui.
Ouais, c'est ça, c'est monumental. C'est vrai, quand on y pense, quand on se promène dans une ville, c'est quelque chose. On est tellement habitué qu'on s'en rend pas compte, mais faites l'effort d'imaginer vos espaces quand vous les traversez, débarrassés de la voiture.
Mais revenez de Maastricht et déprimez un petit peu, quoi. Allez vous balader un jour, il fait beau dans le quartier piétonnier. Vous allez voir, il y a des rues qui ont un cachet sublime à Liège et il y a des voitures partout, quoi.
Mais c'est souvent le ressenti des gens quand dans mon boulot, j'ai le temps de discuter avec les gens et quand ils reviennent de voyage ou ailleurs, ils font. Ah, quand on revient, on déprime, quoi. On se dit, tant qu'on est dans Liège, ça va, mais dès qu'on sort et qu'on se dit ce qu'on voit ailleurs, même dans des villes qui sont pas réputées cyclables, on parle pas d'aller à Copenhague ou à Strasbourg, non, juste de sortir de la ville, et ben, les gens, ils dépriment en revenant en se disant, mais pour le vélo, mais c'est nul, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Enlevez-moi ces pavés.
Le pavé, ça a tellement de cachet. J'ai cherché, on va faire une pause musicale. J'ai cherché le morceau le plus adapté pour ce dossier. Et en fait, il y a plein de chansons qui parlent de vélo. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. Alors, je suis parti sur le classique des classiques et ce sera Queen. Et on va écouter Bicycle Race.
Bicycle. I want to ride my. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars,
you say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice,
say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
L'erreur est tout bonne.
écoutent toujours l'erreur est urbaine sur 48FM et on parle toujours de vélo avec Mathieu et Patrick pour respectivement Pro Vélo et le GRAC. Après avoir fini la première partie sur un constat assez amer de dire que quand on partait de Liège et qu'on y revenait, on trouvait que les infrastructures cyclables n'étaient pas adaptées, on peut peut-être faire le point sur ces infrastructures. Donc il y a eu en 2011, pour 2011-2015, un subside de la région Wallonne dans le cadre du plan Wallonie cyclable qui a été mis en place, qui a été donné à Liège. C'était plusieurs dizaines de millions d'euros, j'ai plus les chiffres exacts en tête, non ?
4-5 millions,
enfin, ça reste conséquent. Et le GRAC a publié un rapport à la fin de ce plan pour constater que les infrastructures n'étaient pas adaptées, qu'elles n'avaient pas été faites, en fait, simplement. Ce qui avait été annoncé n'avait pas été fait, en tout cas pas entièrement. Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur les infrastructures vélo à Liège ? Donc on a quoi ? On a du Ravel, on a des sens uniques qu'on peut emprunter à vélo ?
Oui, donc on a les SUL qui sont là depuis très longtemps déjà, et en nombre. Il y a le Ravel, et puis il y a des itinéraires cyclables avec les chevrons au sol. Voilà, à certains endroits, je pense qu'on peut prendre les voies de bus. Et il y a les piétonniers aussi qui permettent de prendre quelques raccourcis.
Et ça, c'est pas suffisant alors ?
Ben, c'est suffisant pour les 2-3% de cyclistes qui n'ont pas peur. Maintenant, si on veut que monsieur et madame tout le monde puisse faire du vélo, il faut des itinéraires continus sur... En fait, c'est comme la voiture, en fait. Si vous faites des routes qui s'arrêtent, les gens ne vont nulle part. Mais pour le vélo, c'est pareil, les besoins sont identiques. Donc les gens ont besoin de confort, ils ont besoin de sécurité. Et donc quand vous êtes frôlé par des voitures à 50 à l'heure et que vous êtes déjà pas très à l'aise sur votre vélo, c'est pas très encourageant. Donc je répète, si on veut que monsieur et madame tout le monde puisse faire du vélo, il faut des aménagements continus sur direct.
Ouais. Et pourquoi le plan Wallonie Cyclable du coup n'a pas été amené à terme ?
Ben nous, ce qu'on constate, c'est que sur les aménagements promis, 67% n'ont pas été réalisés. Et alors, sur ce qui était réalisé, c'était fait par-ci, par-là. Il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas une ligne directrice. On fait un petit peu en fonction des opportunités, ce qui est une façon de faire. Et il y a des choses qui se font, hein, donc à ce niveau-là, on est très content. Mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas un itinéraire qui est pris d'un fond de vallée d'un point A à un point B. Voilà, donc pour atteindre la masse critique et encourager les gens, c'est un petit peu compliqué. On améliore par-ci, par-là, mais on ne fait pas un gros effort avec une vision.
Je me fais un peu l'avocat du diable à dessein, mais le fond de vallée, la route de fond de vallée, elle existe, c'est le Ravel.
Oui, tout à fait. Alors donc, pendant le mois de mars, le GRAC Liège a fait l'opération Tacton Chenis. Donc elle a invité tous les cyclistes à référencer tous les petits éléments qui les embêtaient dans leur quotidien, qui étaient vraiment, qui leur pourrissaient la vie. Et alors ce qu'on a constaté très clairement sur les près de 300 fiches qu'on a reçues, c'est que beaucoup concernaient des aménagements qui étaient déjà réalisés. Donc le point positif, c'est que les aménagements existent et que les gens les utilisent. Donc il y a un réel besoin et les gens sont très contents que ces aménagements existent. Mais après, il y a des choses vraiment très comiques avec des armoires électriques en plein milieu d'une piste cyclable, des poteaux électriques, des bordures, des rigoles, enfin ce genre de choses. Donc les aménagements sont là, mais ils sont encore perfectibles, clairement.
Et une autre critique qui est faite par les cyclistes au Ravel, c'est que ce ne sont pas des voies réservées au vélo. Ce sont des voies multimodales, c'est-à-dire qu'on peut se balader en poussette, on peut se balader en roller, on peut se balader à pied, en skateboard, et que la voirie du Ravel n'est pas si large que ça, et que du coup c'est compliqué d'avoir un trajet fluide. Enfin, moi qui utilise de temps en temps le Ravel, c'est toujours des coups de frein en permanence pour éviter des personnes, en fait, qui sont tout aussi légitimes que les cyclistes d'être sur...
Après, le problème n'est pas forcément l'autre usager, le piéton ou... Enfin, essaye de faire du skateboard sur Ravel, ça va être compliqué quand même. Mais c'est surtout l'étroitesse, en fait, simplement, que c'était pas prévu pour être partagé. Après, je pense que l'appel d'air fonctionne aussi bien sur les vélos que sur les piétons. Dès lors que tu mets un endroit assez sympa qui te permet d'être coupé de la circulation et de jamais croiser d'autres voitures, bah, t'auras forcément du piéton et du vélo, sauf si tu indiques très clairement ceci est une piste cyclable, et là tu mets un code commun à tout le monde, c'est-à-dire des petites bandes comme si c'était sur une route, quoi, à double sens, etc. Après, si tu codes pas ta piste cyclable pour dire ce n'est que pour les vélos, t'auras forcément d'autres gens qui viendront. Et en plus, le Ravel est beaucoup trop étroit pour accueillir même, en fait, même deux cyclistes qui se croisent. Si tu veux ne pas freiner, faut être habitué à rouler, quoi. Je veux dire, ça, il est satisfaisant à moitié, cette route de fond de vallée, en plus du pavage, etc. C'est un peu de la poudre aux yeux aussi. Moi, je le prends pas, par exemple. Je me mets toujours sur les quais de l'autre côté parce que, en fait, la route est continue sur les quais. Quand tu rentres à peu près à partir de la Belle Liégeoise et que tu vas jusqu'au pont Atlas, moi, je m'arrête pas. J'ai juste un feu qui me coupe la route et je vais bien plus vite, en fait, parce que c'est du beau goudron, c'est pour les voitures, j'ai des trucs qui passent je peux passer en dessous avec les voitures dans les trucs là,
les trémies.
Les trémies, merci. Les trucs de mine, je sais pas pourquoi j'ai peut-être des versoirs de mine. Et ça, tu vois, typiquement, je me dis, moi qui devrais utiliser des aménagements cyclables, je le fais pas. Parce que je trouve que ça me limite dans mon déplacement. Ouais.
Il y a une belle différence à faire avec quand vous prenez la Vennbahn et que vous sortez d'Aix-la-Chapelle. C'est plus large. Et alors, une chose qui est assez frappante, c'est que, en fait, c'est le cycliste qui a priorité. Donc, ils se servent de la Vennbahn pour faire un ralentisseur dans les quartiers. Donc, les voitures doivent laisser céder le passage. Vous revenez de Herve, vous avez la descente de Fléron, le nombre de fois où les routes sont croisées, le nombre de fois où le cycliste doit s'arrêter et redémarrer, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'intérêt d'avoir des aménagements doux, actifs, et d'en faire une priorité plutôt que d'être entrecoupé par les voitures. Voilà. Après, l'autre problème du Ravel, c'est qu'il y a 8 ou 9 types d'usagers différents. Ça va du cavalier au promeneur, au coureur, au roller, au vélo. Donc c'est très 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 compliqué à gérer. Mais c'est pour ça notamment que maintenant, de plus en plus dans les villes où il y a du vélo et vraiment un objectif de part modale, il y a ce qu'on appelle des itinéraires structurants et des autoroutes cyclables qui ne servent qu'à ça. Et ça a commencé à Copenhague, enfin, on fait toujours à Copenhague, mais à un moment donné, les pistes cyclables étaient saturées et les gens qui voulaient retourner en banlieue, ils voulaient rouler plus vite et donc on a dû créer d'autres pistes cyclables. Et donc, c'est ce qu'on demande ici, nous, à Liège, dans un rayon de 5-6 kilomètres, ça fait 20 minutes à vélo, on touche 50% de la population. Donc, il y a vraiment un enjeu et un besoin et un enjeu de créer ces itinéraires-là, quoi.
Et très concrètement, c'est quoi pour vous un aménagement cyclable de qualité en milieu urbain? C'est-à-dire, donc c'est un site propre dédié au vélo où il n'y a pas de possibilité de stationnement dessus parce qu'on sait que des usagers, des automobilistes qui stationnent en double file sur le Ravel, oui mais j'en ai que pour une minute. Ça suffit pour casser l'intérêt de la piste cyclable. Donc c'est quoi concrètement? C'est quelle largeur, quelle étroitesse de route, quel revêtement, vous avez un peu déjà réussi à essayer d'objectiver cette question?
Oui, il y a des données qui existent. Je dirais, elles sont la ville les possède également. Je pense que 3 mètres de largeur, c'est très bien pour une bidirectionnelle. Le revêtement, ici dans l'opération Tecton Chinese dont je parlais tout à l'heure, la question du revêtement, ces fameux pavés, mais même à d'autres endroits, les gros joints, quand on a des dalles de béton, à un moment donné, ça devient plus gros et c'est très embêtant. Donc il y a la question du revêtement, la question de la continuité, des itinéraires qui s'arrêtent. On a des beaux exemples, par exemple, rue du plan incliné, on a un très bel aménagement. Il n'est pas très marqué, donc les piétons marchent dessus. Mais il commence au début de la rue, il s'arrête au début de la rue. Donc on arrive sur le trottoir, donc on est près du point vélo, mais est-ce qu'on doit rouler sur le trottoir pour le point vélo, mais on est dans l'illégalité, ou est-ce qu'on va sur la route, on n'a pas trop notre place? Donc il y a la continuité et le fait que ce soit direct. Demander à des cyclistes de faire des détours, voilà, c'est un peu comme ces célèbres photos où on voit des barrières dans un parc, des chemins dans un parc, et les gens coupent à travers, et on voit la trace dans l'herbe. C'est un peu la même chose.
Moi, je vais peut-être faire un peu avocat du diable là-dessus, mais Je suis pas forcément favorable à, en tout cas pour une certaine partie de la population, et je me sens dedans, d'être coupé totalement du flux de voitures. Ça me dérange pas de rouler proche des voitures, c'est-à-dire comme par exemple sur les quais. Si j'avais et comme on voyage souvent, en fait sur des grosses portions de route, en fait il y a beaucoup de place sur les côtés. C'est des endroits où les voitures peuvent aller vite. Certes, mais à côté de ça, sans avoir un aménagement qui me sépare de la circulation, j'ai juste une grande bande, en fait. J'ai quasi ces 3 mètres, en fait, sur le bord de route. Et sur les quais, c'est souvent ce qui se passe. Les gens sont pas idiots, forcément, en voiture. Et, Et du coup, ils s'écartent beaucoup. Quand ils ont la possibilité de s'écarter, les gens, ils le font, hein, très clairement. Et au contraire, je trouve le vélo assez chouette dans le sens où il va apaiser ce trafic. Et notamment dans les portions à 70, etc. Bah, j'entends les voitures qui ralentissent. Elles freinent pas du tout, hein, mais elles ralentissent. Et ça me dérange pas de partager avec la voiture dans certaines conditions des zones. Donc, pour moi, avoir effectivement un trafic vélo séparé de la voiture, bah, c'est encore une fois opposer aussi symboliquement la voiture au vélo, ce qui n'est pas forcément...
Je pense qu'il y a une différence à faire entre les axes structurants et pénétrants, où là on a besoin de vitesse d'être sûr. En tout cas, le public non cycliste aguerri, lui, a besoin de sécurité et d'aménagement. Et puis du centre-ville, où là on est plus dans des zones 30, où là la mixité peut être clairement plus valorisée. Mais pour les axes structurants, je pense que si vous voulez augmenter la part modale du vélo, là il n'y a pas le choix, quoi. Il faut faire des aménagements sécurisés hors trafic. Si vous voulez que monsieur, madame et les enfants puissent rouler...
Mais les gens veulent ça aussi, hein. Voilà. Je suis bien conscient de ça en disant, bah, même pourquoi pas ouvrir des zones qui n'étaient même pas issues de la voiture, par exemple. On voit des autoroutes cyclables qui s'ouvrent à travers campagne, etc. Même si après ça pose d'autres questions de remettre du goudron au milieu de la campagne, bref. Mais à côté de ça, les gens veulent être séparés du trafic. Ça, c'est clair et net dans la majorité des cas. Et donnons ça aux gens pour qu'au moins des gamins puissent faire du vélo.
Oui, ce n'est pas nécessaire dans le centre-ville, en tout cas pas partout, mais ce qui est aussi important, c'est de diminuer la pression automobile. Enfin, vous gagnerez à ne pas dépenser d'argent à faire des aménagements si vous réduisez à un moment donné la pression automobile. Ce serait intéressant de voir, si on diminuait 10% le nombre de voitures au centre-ville, de voir un petit peu la différence qu'on aurait par rapport aux cyclistes et des aménagements qui ne seraient peut-être plus nécessaires de créer.
Après, faut se méfier des zones piétonnes. Et par exemple, moi, je prends l'exemple montpellierain, vu que j'y ai grandi. Et quand on est sur les voies qui sortent de ville, des axes structurants, pistes cyclables ou pas, ça roule, y a pas de souci. Par contre, en centre-ville, qui est piéton, c'est l'enfer à vélo. Hein. Les piétons sont beaucoup plus, enfin, cassent complètement la fluidité d'un trafic dans un grand piétonnier. Donc, si on diminue la voilure de la voiture en centre-ville, c'est pas dit pour autant que le cycliste sera beaucoup plus à l'aise parce que le piéton sera là aussi et que rouler au milieu d'une foule de piétons, c'est pas du tout évident, je pense. Une question que j'ai envie de poser, c'est on parle beaucoup dans la presse ces temps-ci de passer des pans entiers, des quartiers entiers en zone 30, que ce soit ici à Liège, j'ai entendu ça dans la presse, ou à Bruxelles surtout, on évoque ça. Est-ce que ça, le passage en zone 30, pour tous les véhicules, donc essentiellement les voitures évidemment, est-ce que ça, c'est une solution qui permettrait de rendre plus simple la vie à vélo?
C'est la logique, j'ai envie de dire. Je crois que la moyenne, de toute façon, de la vitesse d'une voiture en ville avoisine les 30 km/h.
13,
en
fait, c'est 13 km/h d'un point A à un point B.
C'est ridicule de militer contre une ville à 30 km/h, puisque les gens, de toute façon, en fait, ça va juste limiter les gros bourrins qui accélèrent jusqu'à 50 pour freiner 100 mètres plus loin, en fait. Donc, ce qui est finalement beaucoup plus simple, parce que des grosses accélérations, d'une part, ça fait beaucoup de bruit, ça pollue bien plus, tu dépenses de l'essence. Donc, en fait, j'ai envie de dire un peu de manière paternaliste, on éduque un peu ces gens-là. Mais c'est absurde, en fait, de juste être contre une ville à 30 km/h. Ça apaise juste tout le monde, quoi.
En termes de bruit, en termes de sécurité objective et subjective, il y a vraiment des gains très intéressants. Ça, on le remarque dans les exemples. Plan Wallonie Cyclable, la ville de Ciney voulait mettre toute la ville en zone 30. Après, ben voilà, un bourgmestre reçoit quelques courriers avant les élections, donc du coup, il freine un petit peu des cas de fer. Mais on se rend bien compte qu'il y a un réel enjeu en termes de niveau sonore, de sécurité routière. Ça apaise à ce niveau-là. Ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils vont pas plus vite quand ils vont à d'autres vitesses. Le point négatif, je dirais, des zones 30, c'est que ça demande du respect des aménagements. Souvent, c'est fait un peu de briques et de brocs, et donc on demande aux automobilistes de les respecter, alors que ce n'est pas très clair. On le voit devant les écoles, les zones 30 sont obligatoires, mais on a parfois des nationales où on nous demande de rouler sur une 2x2 bande avec de l'éclairage autoroutier et de nous rouler à du 30, ça n'a pas de sens. Il faut accompagner ces mesures avec des aménagements, et c'est très intéressant, par exemple, certains endroits avec des effets de porte, des trottoirs traversants, Il y a des exemples où des enfants dans des quartiers peuvent aller de chez eux à l'école sans marcher pas sur la route, parce qu'il y a des trottoirs traversants. Dans le quartier, on permet à ce que le piéton soit prioritaire par rapport au reste. Et j'aimerais bien retrouver un dessin des années 70 d'une campagne de sécurité routière suédoise, je pense, je fais un appel aux auditeurs, où on voit une rue, et en fait la rue est un abysse. Et les piétons traversent sur des planches toutes fines. Mais pour l'instant, la ville, c'est ça. Si vous regardez, hein, vous mettez un passage pour piétons, vous restez 5 minutes et vous comptez le nombre de personnes qui courent sur un passage pour piétons. Et vous allez voir qu'il y a du stress. Et donc, en fait, on remarque que la voiture a pris une telle place que ça génère du stress. Donc, à un moment donné, les villes 30 sont des villes plus calmes, plus apaisées, où les gens sont plus autonomes. Il y a le concept des villes 8-80, où penser la ville pour les enfants de 8 ans et les personnes de 80 ans, s'imaginer des villes pour tout le monde, sans stress, où les gens sont beaucoup plus autonomes, quoi.
Ouais, c'est ça. Et là, il y a quelque chose aussi qui ressort régulièrement maintenant dans les différentes logiques de réflexion sur la ville, c'est les routes multimodales où on peut, tout le monde peut rouler, mais où il est interdit de dépasser les cyclistes.
Les
rues cyclables. Ouais. Moi, je n'en ai jamais vu.
Il y en a Lautigny-Louvain-la-Neuve.
Je me demande dans quelle mesure c'est sécurisant, parce que les automobilistes, même s'ils sont au courant qu'ils sont dans une rue cyclable, s'ils sont bloqués derrière un vélo, ça va les énerver. Je parle d'expérience, et même si moi je suis plutôt sympathisant du vélo, c'est toujours rageant d'être coincé. Je ne sais pas si on a des retours d'expérience de ce genre d'infrastructure-là.
Ben, il y a justement un échange de mails ici récemment sur celle d'Otigny où, en fait, à Liège, il y en a déjà. Hein. La rue de la Régence, la rue de l'Université, les voitures ne savent pas vous dépasser. Ou alors, elles doivent vraiment forcer le passage. Donc, ça existe déjà. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas de faire des rues cyclables ou des zones 30. Enfin, si, ça passe par là, mais c'est la masse critique. Vous allez aux Pays-Bas, vous avez les aménagements. Donc déjà, vous êtes à l'aise. Mais vous avez un nombre conséquent de cyclistes. Et vous savez aussi que l'automobiliste qui est en face de vous est cycliste régulier. Et donc, du coup, la sécurité, elle est là. Quand il pleut, il vous laisse passer. Ici, quand il pleut, on ne vous laisse pas toujours passer. Voilà, c'est vraiment une question d'habitude de tout le monde. Tout le monde est habitué à rouler à vélo. Et il y a un nombre suffisant de vélos, ce qui permet de pacifier certaines choses.
Bah, le vélo devient structurel, en fait. À l'idée, en même temps, je réfléchis en me disant... Bah oui, en fait, pour simplement, on peut pas demander. Je crois que c'est pari perdu de demander aux gens de prendre conscience d'eux-mêmes que les cyclistes existent. C'est-à-dire quelqu'un qui, on peut pas demander à un automobiliste de dire maintenant, à partir de maintenant, tu fais attention aux cyclistes, t'es cordial avec les cyclistes. Les gens, ça marchera jamais, quoi. Par contre, si tu les obliges à rentrer dans des structures, effectivement, donc les aménagements cyclables en font partie, mais la zone 30 aussi est structurante pour un cycliste. Donc t'es obligé de forcer les gens à ce que ça devienne structurel. Et le vélo, à un moment, une masse critique devient structurel parce que le vélo est tout le temps dans ton champ de vision. T'as tout le temps quelqu'un qui va être à vélo, et ça, un automobiliste qui voit un cycliste, bah c'est quelqu'un de vulnérable, quoi. Tu sais que si tu fonces dedans, le mec il est mort, quoi. T'as, donc alors que le cycliste te fonce en dedans, tu vas abîmer sa voiture, quoi. Mais du coup, l'idée, c'est que de la masse critique, je pense que c'est vraiment d'arriver à vraiment ce pouvoir structurant du vélo, où à un moment, bah, si t'as 5 cyclistes devant toi, dans une rue où tu pourrais doubler, bah, les gens vont juste pas le faire, parce que t'as 5 personnes qui sont... Il y a un effet de masse qui est supérieur à toi-même dans ta bagnole.
On l'a vu lors de cette masse critique-ci. Hein. Quand on est 50-70, il y a toujours des automobilistes qui râlent un petit peu. Ici, on était 600. Les automobilistes avaient juste le sourire. Et puis, ils laissaient passer les choses. Quoi, voilà. Mais, Il y a une phrase qui me revient de Jan Gehl, qui est un urbaniste danois, qui dit que si vous faites des villes pour les voitures, vous aurez des voitures. Si vous pensez des villes pour les piétons, vous aurez des piétons. Et pour moi, le point essentiel, il est là, en fait.
Oui, bien sûr. Moi, je suis assez fasciné, assez intéressé par les questions de mobilité en général, et c'est assez évident qu'en mobilité, peut-être plus qu'ailleurs, c'est l'offre qui crée la demande et pas l'inverse. Ça, oui. Pour moi, c'est assez évident. Si on a des infrastructures adaptées à un mode, les gens prendront ce mode-là parce que la plupart des gens réfléchissent leur mode en fonction des opportunités, oui, des disponibilités qu'ils ont. Et objectivement, en ville, une voiture, ça coûte cher et c'est pas le modèle le plus intéressant. Sauf si, malheureusement, on sait pas faire autrement, ou si l'alternative est trop complexe, trop compliquée.
Et il y a aussi une question de compétences. Je pense que beaucoup de gens maintenant ont les moyens d'utiliser Cambio, d'utiliser le vélo, d'utiliser la voiture, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est un peu comme la fracture numérique. J'ai l'impression que maintenant, on bascule plus vers un niveau de compétences. Les gens sont peut-être plus compétents de prendre le bus, peut-être plus compétents de prendre le vélo en ville, parce qu'ils n'ont plus l'habitude, en fait. Ils sont devenus usagers d'un seul mode de transport. Et donc, du coup, la multimodalité, pour eux, c'est plus... Enfin, voilà, si je prends le cas de mes parents, pour eux, venir en train, c'est compliqué. Venir autrement que chez moi en voiture, c'est compliqué pour eux, quoi.
Ouais. Donc, j'ai une dernière question sur les infrastructures. Après, on fera une petite pause musicale. La question de rouler, on en a pas mal parlé, mais le vélo, ça demande aussi un espace de stationnement. Alors, j'invite les auditeurs que ça intéresse à aller sur le site de la DG, je ne sais plus combien, Direction Générale Wallonne, qui publie une revue qui s'appelle le Cématech, qui parle de mobilité, dont le dernier dossier est consacré justement au stationnement cycliste en ville, avec tout un tas de recommandations, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, comment on crée des parkings à vélo dans l'espace public, l'exemple le plus frappant en Belgique, c'est la gare Saint-Pierre à Gand, qui est impressionnante. Quand on sort, on a l'impression de... Moi, j'oserais pas garer mon vélo là, j'aurais peur de ne pas le retrouver, non pas qu'on me l'aurait volé, mais parce qu'il y a tellement de vélos qu'il faut bien se rappeler d'où on l'a garé. Ça aussi, ça manque à Liège. C'est pas juste les six anneaux qui a place Xavier Nogent ou les vagues poteaux de signalisation qu'il y a un peu partout qui suffisent à garer du vélo. Est-ce que là aussi, il y a un enjeu à faire? Est-ce que le plan Wallonie cyclable, est-ce que le plan communal de cyclable prenne ça en compte, ces enjeux de stationnement?
C'est écrit en tout cas. Donc ici, il y a une actualisation du plan communal cyclable qui date de 2017, fin de l'année 2017, où le bureau d'études fait des projections par rapport au stationnement si on veut atteindre 10% de masse critique. Et donc à ce niveau-là, il y a plein de recommandations par rapport au stationnement en ville de courte durée, de moyenne durée et de longue durée dans les quartiers, notamment à la gare des Guillemins, où le parking que j'utilise tous les jours, il est vraiment génial, sécurisé, à l'abri. Mais si on veut atteindre 10%, de cyclistes,
il n'est pas suffisant
clairement, et donc je crois qu'on a multiplié par 2, 3, 4 l'offre de stationnement en ville.
Là, il était assez ambitieux le plan communal à ce niveau là où il parlait des trois gares, Palais, Jean Fausse, ouais, et Guillemin, où en fait moi j'avais en tête que c'était plus que ça encore, pour les Guillemins en tout cas, où il fallait prévoir, en fait c'est presque mégalomaniaque, quoi. Pour le Palais, pour l'instant on a, je crois, 4 je sais plus, une possibilité d'une dizaine de places de vélo, et il parlait de 200-300 places, quoi, pour aller, quoi.
Et d'ailleurs, si vous voyez les vélos pliables et Brompton, où ils marchent le mieux, en fait, c'est en Angleterre et en Belgique. Parce qu'en général, c'est là où le stationnement pose souci, mais c'est surtout une question de transport en commun, où c'est pas facile de mettre son vélo dans les transports en commun, donc c'est pour ça que les ventes explosent en Belgique et en Angleterre.
Super. Et la recommandation de ce dossier du Cématech, il parle aussi, donc il parle effectivement de l'infrastructure publique, hein. Donc on met en place dans les projets d'aménagement, essayer de mettre en place un maximum, particulièrement quand on crée un aménagement type gare où on va avoir du flux, on va avoir du trafic et où l'intermodalité est nécessaire, on va avoir des aménagements. Mais il parle aussi d'un sujet au niveau du privé, c'est-à-dire que dans les immeubles d'habitation, il y a un besoin. Aujourd'hui, quand on habite dans les maisons traditionnelles liégeoises, il n'y a pas toujours la place pour garer son vélo. Dans les immeubles, c'est pareil, et pareil à l'autre bout du trajet, dans les écoles ou dans les entreprises, il n'y a pas toujours de parking vélo. Or, tous les gens qui font du vélo se sont déjà fait voler un vélo, je crois, dans l'espace public, parce qu'il suffit d'une, c'est pas très compliqué, il suffit d'une pince pour enlever une chaîne, quoi, grosso modo. Même si Pro Vélo vend des très bon cadenas, mais est-ce que là les pouvoirs publics ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils peuvent contraindre les bâtisseurs, les propriétaires ou les promoteurs de penser aussi du stationnement cyclable dans leur projet?
Ben, je sais que la ville de Ciney, par exemple, oblige toutes les nouvelles constructions d'immeubles d'avoir un local vélo. Oui. Voilà, donc ça c'est obligatoire. Voilà, ça peut être transposable à Liège, c'est très bien. Après, ben, c'est sûr que s'ils mettent des aménagements en voirie, c'est encore mieux, de favoriser l'aménagement de parking, de box moyenne longue durée dans les quartiers, pour que les gens puissent avoir des vélos. S'ils sont dans des appartements, c'est très intéressant. Avoir une impulsion auprès de la SNCB pour qu'elle développe les parkings, c'est très bien, mais c'est clairement en termes d'urbanisme que ça doit jouer. Il y a plein d'espaces vides où là, il y a moyen de mettre des stationnements
massifs. Il me semble qu'en France, c'est obligatoire à chaque construction nouvelle ou rénovation de bâti, tu dois prévoir, en tout cas pour les... Si c'est pas pour toi, enfin, a priori, c'est pour les gens qui vont construire, donc même quelqu'un qui refait sa maison rue de SB, je ne sais pas, doit prévoir, s'il a des locataires, de quelque chose pour pouvoir accrocher un vélo. Donc ça, c'est un point fixe, parce que c'est un point fixe dans la maison, mais il faut prévoir. Les gens ne le font pas forcément, hein. c'est obligatoire, mais c'est pas, il y a aucun contrôle là-dessus, hein, mais c'est obligatoire en tout cas. À un moment, c'est écrit que à chaque rénovation, tu fais ça. Et pareil pour les aménagements cyclables, où à chaque rénovation de voirie, tu es obligé de prévoir un espace pour le vélo. C'est aussi simple que ça, en fait. Après, ça marche assez bien, moi, je trouve, dans certaines villes où quand tu refais des gros tronçons, t'as au moins une piste cyclable qui est créée à ce moment-là.
Et toutes ces pistes pour le stationnement sont énumérées, chiffrées dans l'actualisation du plan communal cyclable. Donc la ville de Liège a toutes les données pour faire les choses correctement.
On n'a plus qu'à. Alors, tu vas devoir partir, Patrick. Donc, du coup, je vais poser ma question avant la pause musicale. En vue des prochaines élections communales, le GREC, vous venez de publier des recommandations pour
un mémorandum
pour une ville cyclable. Est-ce que tu sais nous en faire un résumé très rapidement?
Oui, donc on a été rencontrer pour l'instant, 8 formations politiques pour leur présenter. C'était très intéressant. L'accueil était assez bon. Voilà. Alors, nous, on a un objectif. L'objectif clair, c'est d'atteindre 10% de masse critique. Voilà. Pour nous, la politique cyclable, elle doit s'articuler autour de cet objectif-là. Et après ça, c'est toute une série de mesures sur le stationnement, ce genre de choses. Mais le plus important pour nous, c'est les 10% de masse critique, et alors un budget cohérent. Là, comme on l'explique depuis tout à l'heure, la ville a tous les outils. Les plans communaux, le personnel. Voilà. Ce qui manque maintenant, c'est un budget et une vision. C'est de commencer à faire un plan d'attaque et de se dire on fait ça, on phase les choses et on a un budget cohérent. Donc c'est 10 euros par an par habitant. En dessous de 10 euros par an par habitant, pour nous, il n'y a pas de politique crédible. Il n'y a pas de changement possible. Voilà. Et pour l'instant, le budget est de 2,3 euros. Et pendant le plan Wallonie Cyclable, il est monté à 4,50, je pense.
C'est ça. Et à titre de comparaison, on sait quel est le budget dans une ville comme Amsterdam ou Gand?
Au niveau Wallon, je pense que le ministre a mis 5 euros par an par habitant. Et au niveau des Pays-Bas, je pense que pour le pays, mais je suis pas sûr des chiffres, je pense que c'est 60 euros.
Oui, c'est ça. On n'est pas dans les mêmes échelles de valeur.
Ouais. Et ce qui est très intéressant par rapport aux Pays-Bas, parce qu'on revient toujours avec les Pays-Bas et Copenhague, c'est que c'est pas culturel le vélo. C'est juste à un moment donné, ils ont fait un choix de se dire, la crise pétrolière, on a des soucis avec ça. Et donc, on va développer l'usage du vélo. C'est pragmatique. C'est tout.
C'est bien sûr. Et ce sera le sujet de la discussion avec Pierre Fanquignol qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Mais d'ici là, on va écouter Être deux de Nicolas Michaud. Pour une petite pause. Et donc, on est de retour sur les ondes de 48FM. On continue notre dossier sur le vélo dans les rues urbaines. Et alors, mes deux intervenants précédents sont partis, mais j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Fanquignol, qui est historien de la ville, c'est ça?
Oui, on peut le dire, ouais. Historien, et en particulier de la ville, oui.
Et qui a notamment mis en place contribuer en tout cas à mettre en place une expo vélo sur le vélo au musée des transports en commun il y a 2 ans je crois ou 3 ans maintenant
En 2016 oui.
2016 et de cette expo est sorti un bouquin qui est Histoire d'une reconquête, c'est ça, Ville et voilà. Vélo, Histoire d'une reconquête, qui est une grosse brochure justement sur la question de comment on fait qu'une ville
devient un espace propice au vélo. Donc on l'a dit dans notre première partie, on a beaucoup parlé de Liège. Ce que disait Patrick Jacquemin, c'est que les recommandations du GRAC pour les prochaines élections communales, c'est de passer un budget de 10 euros par habitant pour développer le vélo. Est-ce que 10 euros par habitant, ça suffit aujourd'hui, question comme ça à froid.
Mais écoute, j'ai noté que, par exemple, dans une ville comme Amsterdam, c'est 27 euros par habitant, avec une infrastructure qui est déjà faite.
Ouais, c'est ça.
Donc, les 27 euros par habitant sont affectés à l'amélioration de l'infrastructure. Et nous, on est évidemment très très loin. Je pense, le GRAC a donné le chiffre de, je crois que c'est 2,50 €.
Ouais, 2,30 €, ouais.
Voilà, 2,30 €, 2,50 €. Donc, effectivement, même avec une infrastructure qui serait à faire pratiquement totalement. Hormis les choses qu'on connaît comme le Ravel, mais dont on voit déjà tous les défauts, des moments de saturation,
ouais,
quand
ça.
Il fait beau, les problèmes de cohabitation entre cyclistes, piétons et, j'ajouterais, chiens, qui est souvent un problème. Pour le pratiquer pratiquement tous les jours, je connais les difficultés.
C'est ça. Et du coup, en fin d'interview avec, enfin, en fin de discussion avec Patrick et Mathieu, il me redisait quelque part que les Hollandais ou les Danois n'étaient pas génétiquement programmés à faire du vélo, mais que il y a eu à un moment donné une volonté politique de développer le vélo. Est-ce que tu sais revenir un peu là-dessus ?
Oui, absolument. Il y avait déjà une pratique du vélo qui était assez élevée aux Pays-Bas dès l'invention du vélo. C'est un peu devenu une espèce de fierté nationale. Mais alors, ils ont surtout donné un coup d'accélérateur à leur politique vélo à partir de la crise pétrolière de 1973, où la Hollande aurait été frappée particulièrement par les pays arabes comme étant considérés comme trop pro-israélienne. Et alors, ils ont vraiment mis une politique en place avec les moyens affectés, avec la réflexion intellectuelle autour de la place du vélo dans les villes. Et on voit le résultat quand on se déporte, je dirais, de 25 km vers le nord et qu'on voit Maastricht, où c'est une excellence. Mais c'est toutes les villes néerlandaises. Hein. Je veux dire, il y a des parts modales qui sont calculées. J'avais la ville d'Utrecht, c'est 30% de parts modales, c'est-à-dire de mode de transport principal pour se déplacer dans la ville. Par exemple, une ville comme Rotterdam ne fait que 16%. Et pour une raison très simple, c'est que Rotterdam, c'est un port.
Bien sûr.
Et que pour des raisons logistiques, on a dû développer quand même le transport.
Oui, c'est compliqué de transporter.
Mais on est quand même à 16% dans une ville qui n'est pas considérée comme étant particulièrement vélophile ou tournée vers le vélo. Mais les infrastructures sont là, pour l'avoir pratiqué toute la banlieue de Rotterdam, et équipé en pistes cyclables.
Et donc, du coup, la volonté politique, elle se manifeste comment ? Des budgets, des infrastructures, de la communication aussi
le terme volonté politique, c'est un très beau terme. C'est un terme qui est à la fois clair et un peu ambigu. C'est quoi une volonté politique ? Je crois qu'une volonté politique, si on voulait essayer de transposer l'expérience néerlandaise à notre région, ce serait déjà un consensus général sur la nécessité, pour des tas de raisons, non seulement de congestion de trafic, mais aussi pour des raisons de santé, pour des raisons économiques, d'axer prioritairement la mobilité sur le développement des modes doux. Pas uniquement le vélo, mais il y a la marche aussi, c'est quand même un beau sujet. Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des marcheurs, quand ils abandonnent la marche, c'est pour aller vers le vélo. Donc l'idéal, ce serait de convertir, entre guillemets, les automobilistes à une politique vélo. Alors, une volonté politique, c'est effectivement un consensus, non seulement des politiques, des citoyens, des associations pour mener une réelle politique de développement du vélo.
Et ça, on parle de la Hollande, on parle beaucoup de la Hollande. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont
le Danemark, en fait, la ville la plus cyclable, ce n'est pas
évidemment
Amsterdam, contrairement à ce qu'on croit, c'est Copenhague.
Voilà. C'est ça. Il y avait au musée, pendant l'expo vélo au musée des transports, il y avait un truc super, c'était un outil génial. Exactement. Donc on pédalait sur un vélo d'appartement qui nous était reconnecté à un écran,
ouais.
Et à chaque fois qu'on sonnait un petit coup de sonnette, on avait l'écran qui nous changeait de ville. Et alors comment ça a été sélectionné, ces villes, sur quelle base, sur quels critères? Parce que je me rappelle qu'on allait effectivement à Copenhague, Amsterdam,
Amsterdam, il y avait Istanbul, il y avait Charleroi. Charleroi a la particularité en Belgique francophone, ou en Belgique en tout cas, d'être une ville avec pratiquement aucun vélo. Et je le sais parce que je l'ai testé dans le cadre de l'exposition. Et donc, effectivement, c'était... à la fois ludique et très, très pédagogique, très éducatif d'une certaine façon.
C'est ça. Et à part l'Europe du Nord, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a développé le vélo?
Oui, les villes italiennes aussi. Les villes italiennes, Bolzano, Turin, ce sont des villes où on s'est rendu compte, pour d'autres raisons, le patrimoine est magnifique dans les centres-villes italiens, et on s'est rendu compte que les bâtiments étaient rongés par l'excès d'automobile, et donc on a développé des politiques vélo aussi dans certaines villes italiennes.
Et je pense notamment au pays du Sud, en fait, parce que je me dis, je n'ai pas la réponse, hein, mais je me dis que le vélo, quand il s'est développé en Europe dans un premier temps, il a remplacé essentiellement le cheval au tout début. C'est-à-dire que là où les gens se déplaçaient en cheval, bah, le vélo était évidemment beaucoup moins salissant, beaucoup moins difficile à l'entretien, et donc ça arrivait. Et puis il a été remplacé par la voiture, mais la voiture, ça engendre un coût. C'est possible dans une société riche où les gens ont les moyens individuellement de s'acheter une voiture et de payer au quotidien ce que coûte une voiture. Je pense que dans les pays du Sud, on n'est pas du tout dans cette réalité-là. Est-ce qu'il y a des villes d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, etc., où il y a eu cette volonté de développer
Là, je vais caler parce que on n'a pas spécialement étudié ça. Je voudrais bien préciser qu'en fait, je n'ai pas été le concepteur de l'exposition. Moi, j'ai été le concepteur de l'ouvrage. Donc, j'ai choisi les auteurs, j'ai mené les interviews, et le livre fonctionne indépendamment d'un catalogue d'exposition. Ce n'est pas un catalogue à proprement parler, parce que l'exposition a eu lieu plus tôt en vérité, et là c'est Lara Feilen qui a monté l'exposition, et je ne crois pas qu'elle parle que l'exposition parlait des villes au-delà de l'Europe. C'était fort focalisé sur
l'Europe. Il y avait quelque chose sur Caracas, je crois, sur Medellin, mais je ne sais pas dans quelle mesure.
C'était pas plutôt la première expo sur la mobilité?
Non, je pense que c'était vraiment lié au vélo, mais je ne sais pas, je ne connais pas.
Ce que Héran nous apprend dans l'ouvrage ici, Ville et vélo, c'est que le vélo s'est très fortement développé aux États-Unis au tout début. Donc, dans les années 1890, quand le vélo moderne naît, on considère que le vélo moderne naît à partir du moment où on a le pneumatique inventé par Dunlop, qui était vétérinaire, c'est étonnant. Et c'est à partir de ce moment-là, et le vélo démarre très vite aux États-Unis comme moyen de transport, et comme en Europe, est supplanté par l'automobile. Donc au départ, le vélo est plutôt un objet de luxe pour les classes favorisées. L'équivalent d'un vélo classique coûtait 3000 euros à cette époque-là. C'est-à-dire le prix d'un bon vélo électrique maintenant. Et plus tard, le vélo va se démocratiser, et l'automobile, très vite, puisqu'elle arrive au tournant du siècle, va plutôt aller vers les classes favorisées.
Et le vélo devient le mode de déplacement.
Un mode de déplacement populaire, on le voit notamment dans les photos de sortie d'usine où on voit la plupart des ouvriers utiliser leur vélo. Et ça, c'est avant l'arrivée de l'automobile comme bien de consommation accessible aux classes populaires.
Ouais. Et une petite question sur le bouquin, du coup, qu'on mettra en lien sur le Facebook de l'émission et sur la page web urbagora.be/radio. Comment toi tu arrives à prendre en charge ce bouquin-là, déjà, d'une part, vu que t'es historien de la ville, donc a priori t'es pas nécessairement, t'as un lien avec le vélo à la base,
non,
pas nécessairement. Et comment tu sélectionnes les auteurs, et quel est le propos que t'as envie de donner à ce...
Ici c'était plutôt optimiste, parce que dire ville et vélo, histoire d'une reconquête, on aurait pu être plus pessimiste et dire ville et vélo, histoire d'une relation problématique, par exemple. Ici, le propos était de montrer qu'effectivement il y a un retour du vélo d'une certaine façon, parce que ça correspond un peu à, on va dire, une convergence de toute une série de préoccupations, qu'elles soient environnementales ou de congestion de trafic, par exemple, du fait que la voiture étouffe littéralement les villes. La reconquête, c'est ça. C'est le vélo a eu sa faveur à une époque, et redevient, et pas uniquement pour cette classe socioculturelle qu'on qualifie de bobo, pour beaucoup de gens, en vérité, le vélo peut devenir une solution de mobilité, mais aussi un outil de reconquête de la ville.
Dans quel sens ?
Je pense que, par exemple, on pourrait aller un peu dans les deux sens, c'est-à-dire adapter le vélo à la ville, mais adapter la ville au vélo aussi. C'est-à-dire que le vélo, utiliser le paramètre mobilité par vélo comme outil de configuration de la ville peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc ça, c'est une relation un peu dialectique entre les deux termes.
Oui, c'est ça. Bon, on a pas mal parlé en première heure de justement tout le développement des questions d'infrastructures qui sont manquantes en ville, en tout cas à Liège, ou insuffisantes, et notamment en termes de stationnement. Mais le bouquin se veut, lui, résolument optimiste. C'est vraiment dans l'optique de dire « ça s'est fait ailleurs ». Ça peut se faire ici, et donc tu as évoqué Errant, qui est quand même une sommité en la matière. Pour toi, aujourd'hui, est-ce qu'on observe, pas juste à Liège, mais en Belgique en général, ou dans les pays qui ont peut-être pas suivi le premier exemple hollandais, est-ce qu'on sent ce frémissement-là? Est-ce qu'on sent vraiment aujourd'hui un retour en grâce du vélo dans les politiques d'aménagement d'urbanisme? Je sais qu'en France, ça dépend des villes, par exemple.
Oui, il y a Strasbourg exemplaire, il y a Bordeaux. Mais Bordeaux a saisi la perche de l'installation du tram. Hein. On voit tous les quais de Garonne qui ont été complètement reconfigurés. Strasbourg est une ville aussi assez exemplaire. Oui. Mais voilà, là, je sors d'une défense de TFE d'une étudiante qui a consacré son TFE à ce sujet-là. Elle prenait l'exemple de Lille. Lille n'est pas du tout... Lille est un peu comme Liège, peut-être avec encore plus aggravant comme facteur le fait que les voies rapides sont très, très proches du centre-ville et que ce sont effectivement des obstacles majeurs au développement d'une mobilité douce, marche ou vélo.
Oui, c'est ça. Et Lille est en plus, contrairement à Liège, encore plus grande et donc encore plus de difficultés. Voilà. Que ça. Et est-ce qu'on sent en Belgique, est-ce que toi tu sens en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, un frémissement, en tout cas un intérêt qui commence à se marquer pour ça au niveau des responsables politiques?
Globalement, moi je suis assez déçu parce qu'on a l'impression qu'on veut un peu ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire on veut pas trop heurter les automobilistes, vous savez, on approche là d'une échéance communale hyper importante. Je pense qu'il y a aussi un énorme problème qui a été justement soulevé lors de la défense de l'étudiante tout à l'heure, qui s'appelle Élise Peters. Il y a un problème de cloisonnement des décisions, une espèce de d'éparpillement des responsabilités. Qui est à la manœuvre? Imaginons un monsieur vélo a des super pouvoirs qui viendrait avec un plan, on va dire, à la hollandaise, cohérent, doté des moyens nécessaires, doté de toute la finesse de sensibilité des différents usagers. Cette personne se heurterait en premier lieu au fait que les compétences qui touchent à la mobilité sont hyper éparpillées. Vous avez les opérateurs de mobilité, hein, le TEG, la SNCB, vous avez les associations, vous avez les échevinats qui gèrent les choses au niveau communal. Vous avez les budgets qui sont plutôt libérés au niveau régional. Et tout ça demanderait une telle, un tel accord, un tel consensus pour développer une politique vélo. Ben voilà, je dois avouer que je ne connais pas le mode opératoire aux Pays-Bas. Mais le résultat est là. En tout cas, ça c'est clair. Voilà, je pense que dans un premier temps, il faudrait unifier les politiques et les moyens.
Ouais, c'était le constat que faisait Patrick Jacquemin avant de partir pour le CRAC, était de dire que Liège a tous les outils en main. Elle a un plan cyclable ambitieux, elle a une Madame Vélo qui est assez efficace aussi et qui en tout cas montre une vraie volonté. Elle avait le plan Wallonie cyclable, même si selon les résultats, les analyses qu'en fait le CRAC, c'est pas du tout probant. En tout cas, le résultat ne correspond pas aux attentes, loin s'en faut. Et qu'est-ce qui manque? Alors pour eux, c'est juste une question de volonté politique, justement. C'est juste une question de... Ils disent qu'il faut du pognon et de la vision. Ça, c'est les recommandations.
Voilà, le terme volonté politique, c'est un terme un peu fourre-tout, à la fois précis et vague. Et donc, effectivement, mais qui porte... Il faut quand même des porteurs de projets. Et il faut que ce soit politique au sens noble du terme, c'est-à-dire une politique qui serait l'objet d'un consensus de toutes les parties prenantes au problème de mobilité.
C'est ça. Mais aujourd'hui, on constate, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est quand la CEMATEC, donc qui est l'organisme régional qui en fait publie une revue mensuelle ou bimensuelle, je ne sais plus, sur les questions de mobilité, fait son dossier au stationnement vélo, c'est qu'il y a quand même au niveau régional une volonté claire et marquée de s'adresser à tous les opérateurs du transport qui soient donc la CEMATEC ne s'adresse pas exclusivement, loin s'en faut, aux usagers des mobilités douces, hein, mais s'adresse vraiment à tous les conseillers en mobilité qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans les institutions, dans les administrations, etc., mettant en avant et essayer de documenter cette question-là. Donc, quelque part, la volonté politique, elle existe. En tout cas, dans les administrations, on sent qu'il y a quelque chose.
Oui, mais c'est la question de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, est-ce que la volonté politique est entraînée et impulsée par le fait que il y a de plus en plus de cyclistes, je le remarquais encore ce matin, évidemment aujourd'hui le temps s'y prête, ou est-ce l'inverse, les cyclistes s'y forcent, enfin, vous voyez, c'est voilà, ils se nourrissent mutuellement en vérité. Ouais. Mais il est clair que in fine, c'est le politique qui a la responsabilité. On dit souvent que les politiques sont dépossédés de leurs moyens de décision par l'Europe en haut, par le marché, etc. Mais en réalité, pour mener une politique cyclable, il y a les outils et le politique a tous les outils en main.
Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a une articulation à trouver entre différents niveaux de pouvoir. Ça, c'est le drame belge.
D'une part, et très concrètement, je veux dire très techniquement, selon les configurations urbaines auxquelles on a affaire, des mélanges, des voies séparées, des zones 30, il y a les outils, ils existent. En vérité, il suffit d'observer ce qui se passe chez nos voisins du Nord. Et voilà, il faut effectivement cette volonté.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui se montre que quand dans les années 70, les Pays-Bas prennent le tournant du vélo, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le pouvoir public qui insuffle cette dynamique-là.
Oui, qui joue un peu le rôle
de moteur.
Qui cristallise toute une série d'attentes, de potentialités qui sont maximisées. Et c'est pas une histoire de relief, hein. Ça, c'est une histoire, c'est une fable. Ouais, tant qu'avec le développement du vélo électrique, cet argument va être totalement obsolète.
Oui, à partir du moment où le vélo électrique sera quand même un peu plus démocratique qu'aujourd'hui. Je propose une petite pause et puis on revient tout de suite. On va écouter Bicada Pola Lua du groupe bruxellois et galicien à la fois, Yalma.
Miñas entrañas, pedaciño do meu ser, anaco da miña vida, lembranza do meu querer, picada pola lúa, adormecida quedei, tiven un soño bonito, resalada con él. O meu amor é pequeno, eu tamén así o quero, levote dentro de min, dentro de miño te levo, o meu amor é pequeno. Dentro de mí yo te elevo, picada por la lúa, adormecida quedei, vivo en un sueño bonito, resalada con él, picada por la lúa, adormecida quedei, vivo en un sueño bonito, resalada con él, picada por la lúa, adormecida quedei, vivo en un sueño bonito, resalada con él, picada por la lúa. Dentro de mí yo te elevo, o meu amor es pequeño, esto venga así yo.
L'erreur est urbaine.
Et vous êtes de retour sur les ondes de 48FM, on écoute toujours L'erreur est urbaine et on parle encore et toujours de vélo avec Pierre-Franck Guignol. Pierre, avant cette petite pause, tu nous parlais de Lille, tu nous parlais aussi de Errant qui a contribué au bouquin. Alors moi j'ai une question, t'auras peut-être pas la réponse, mais Errant c'est la sommité actuelle dans l'université française, en tout cas pour tout ce qui concerne l'histoire de la mobilité. Et il est lillois, il vit
oui,
à Lille.
Il vit à Paris, mais il est professeur à Lille, en effet.
Alors, nul n'est prophète en son pays, quoi.
Oui, voilà. Et oui, dans une ville qui n'est pas spécialement vélophile, puisqu'on vient de le dire, là, maintenant, Lille. Oui, c'est un des spécialistes. Il y a aussi Olivier Razemont, hein, qui est un journaliste du Monde et qui tient un blog.
Bien sûr.
Il y a Véronique Michaud aussi, qui aussi.
Olivier Razemont, pour faire une petite parenthèse, on est en pourparlers en ce moment pour essayer de le faire venir pour une conférence à Liège avec Pax, mais c'est pas encore fait, donc on vous tiendra au courant de toute façon.
Merci, oui. Voilà.
Enfin voilà, c'était juste pour.
Mais si tu veux, je présente un peu le livre.
Je veux bien.
Ça, c'est pas du tout.
Je veux bien, ouais, avec plaisir.
Donc voilà, il y a effectivement une interview de Frédéric Errant, auteur du livre passionnant Le Retour de la bicyclette. Il y a un texte que j'ai écrit qui sont une espèce de jalon historique sur l'histoire du vélo à Liège, parce que ça n'a pas été étudié spécifiquement. Il y a un texte de Michel Destrée. Sur, on va dire, la politique générale du vélo en Wallonie. Et il y a un article de Laurent Teuwissen, qui est un spécialiste néerlandais, sur de la politique cyclable, qui est en réalité un consultant. Voilà, il développe des expertises aux Pays-Bas. Ce sont des gens qui sont appelés par des municipalités pour élaborer des plans vélo dans les villes. Et donc, comme déjà le vélo est déjà très développé, quand on élabore des politiques vélo en Belgique, en Hollande, on va beaucoup plus loin que là où on est, là où nous ne sommes pas encore. Donc il y a vraiment une sophistication, notamment les problèmes tout simples de déneigement des pistes cyclables, voilà, c'est un problème qui commence à se poser. J'ai vu quelque chose d'hallucinant à Naaldwijk, c'est une petite ville à proximité de Rotterdam-La Haye, un viaduc pour vélo qui surplombe une autoroute. Voilà. Financé par des fonds européens. Voilà. Les Hollandais consacrent des fonds européens à améliorer leur infrastructure cyclable qui est déjà largement développée.
Et le bouquin est passionnant. Moi, je l'ai lu. On peut le trouver
Dans les librairies liégeoises classiques, dirais-je, et également au musée des transports de Wallonie.
J'incite de toute façon tout le monde à aller au musée des transports de Wallonie parce que c'est un musée méconnu et c'est bien triste. Et il est
passionnant.
Le nom du bouquin, on a déjà dit, effectivement, on peut dire le nom du bouquin, c'est Ville et vélo, histoire d'une reconquête.
Voilà.
C'est
édité
ça.
Édité par le musée des transports en commun, ça fait partie d'une collection qui s'appelle Cité Mobile. La première livraison de cette collection, c'était un ouvrage numérique plus généraliste sur le thème de la mobilité, quand la mobilité fait la ville et inversement, qu'on trouve en format numérique. Celui-ci, Ville et vélo, est le deuxième. Et en projet, on a pour 2019 ou 2020 le thème de la marche dans la ville.
Super.
C'est un thème passionnant aussi.
Et dans les cartons, on a aussi un hors-série de dérivation qui n'est pas encore annoncé officiellement, mais qui se fait sur l'histoire de la mobilité aussi, et qui sera publié, coédité par le musée des transports et dérivation. Pour revenir un peu au contenu du livre, toi, donc tu es historien et tu as fait une histoire de la mobilité, enfin, en tout cas une histoire du vélo à Liège. Est-ce que tu sais nous retracer brièvement, hein, évidemment, s'il y a eu une grande étape du vélo à Liège? Est-ce qu'il y a eu un moment où Liège a été une ville cyclable, en tout cas plus qu'aujourd'hui?
Non, pas spécialement. Liège a suivi un peu le mouvement général de l'apparition du vélo qui a commencé à se poser à partir des années, de manière très régulière, 1890, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'invention du pneumatique qui a permis une généralisation, je veux dire, de cet objet, du vélo, qui est en fait un des premiers biens manufacturés à disposition des populations. C'est amusant, hein. C'est maintenant, on a l'habitude de vivre dans les produits de consommation, mais voilà, en 1890, la société étant ce qu'elle est, la consommation, hormis pour les classes favorisées, n'est pas aussi développée qu'elle l'est maintenant, et maintenant elle est aussi pour les classes populaires.
Oui, les amateurs de sport savent que le vélo, les manufactures de Saint-Etienne, par exemple, en France, sont des choses qui ont été extrêmement importantes au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie.
Il y avait Roubaix aussi qui faisait des vélos, non?
Ah, c'est possible, il y a eu beaucoup de fabricants de vélos. Ouais. Mais là, c'est vrai que les manufactures de cycles de Saint-Etienne, c'est la, c'était la grande usine du forêt, donc en plus de mines. C'était l'industrie stéphanoise à parts égales avec l'industrie minière.
Ah oui, ok. Bah ici, non, il n'y a rien de particulier. J'ai retrouvé, parce que j'ai quand même fait des recherches dans ce qu'on pourrait appeler les sources, les historiens appellent les sources, en l'occurrence les bulletins administratifs qui relatent les débats du Conseil communal à l'époque, et j'ai trouvé le premier règlement de 1863. J'étais assez étonné, il y a déjà un règlement en 1863, mais qui est très vague. En réalité, la manière dont on a appréhendé le vélo, on s'est demandé si ça allait vraiment devenir un moyen de transport à part entière, je veux dire, ou si ça pouvait être assimilé à une espèce de jouet qu'on pouvait utiliser dans les parcs. Et les débats portent essentiellement sur le partage de la voirie, mais qui ne se fait pas encore avec l'automobile, qui va commencer à se faire avec l'automobile à partir du tournant 19e-20e, mais par exemple avec les charrettes, les chevaux, etc. Voilà, on sent déjà qu'il y a je veux dire, les prémices d'un débat. Voilà. Mais je n'ai pas poussé l'analyse jusqu'à aujourd'hui, hein, par rapport... Je me suis surtout intéressé à l'apparition de ce nouvel objet de mobilité dans la ville et la manière dont il est appréhendé, notamment par les gens, les conseillers communaux, qui ont à régler les possibles conflits d'usage.
Ce qui est formidable, c'est qu'en 1863, on débat du vélo pour la place qu'il peut occuper dans la voirie, comment on partage la voirie en faisant une place à ce vélo, qui finalement est un emmerdeur comme un autre par rapport à la circulation normale, qui est celle des charrettes et des chevaux. Et on a, 150 ans plus tard, à peu près le même débat avec la voiture, en fait.
Exactement.
Oui. Ça, c'est rigolo.
Sauf que peut-être en termes, quantitatifs, la voiture, je suis encore frappé aujourd'hui de voir, alors que le vélo se développe énormément, je suis encore frappé de voir le nombre d'automobiles dans tous les quartiers de Liège. Il y a encore une augmentation de l'automobile. Avant de trouver des alternatives crédibles à la voiture, je pense qu'il y a encore énormément de travail. Et bon, je ne vais pas faire une parenthèse gratuite ou méchante, mais je crains que beaucoup d'espoirs sont reportés sur le tram, notamment en termes d'infrastructures cyclables, puisque la ligne de tram devrait être accompagnée d'une piste cyclable, mais je crains que le tram ne résolve pas les gros problèmes de mobilité. La ligne tram, c'est la ligne du 1, je dirais. Pourquoi on ne réfléchit pas plus à les aires propres pour les autobus et qu'on affecte les moyens du tram à peut-être à une autre liaison, notamment Guillemin-Sartillement ou Est-Ouest qui pose des problèmes.
J'invite tous nos auditeurs à aller sur le site d'Urbagora, retrouver un communiqué de presse qu'on avait fait l'an passé justement en disant il faut profiter des travaux du tram pour l'implantation du tram pour repenser le réseau de bus en profondeur. Et on a cette conférence de presse qu'on avait donné, ce communiqué de presse qu'on avait fait a eu un certain écho puisqu'on avait été reçu par le directeur, je ne sais plus son poste exact, mais enfin quelqu'un d'assez bien placé à la SROT justement du développement de l'offre, qui est en charge du développement de l'offre, qui nous avait reçu, qui avait lu notre analyse avec intérêt, qui n'était pas d'accord avec nous parce que à l'époque ce qu'il nous disait c'est que la priorité pour les textes est de développer l'intercité, c'est-à-dire de se faire le réseau parallèle au train là où il n'y a pas de train en gros, c'est-à-dire la SNCB ça coûte cher à entretenir une ligne de train, c'est beaucoup plus difficile qu'évidemment une ligne de bus, et les priorités de la SROT à l'époque étaient essentiellement de consacrer des moyens à ça. Maintenant qu'il y a eu la fusion des techs, ou en tout cas qu'elle est imminente, je ne vois pas trop comment ça peut s'améliorer à ce niveau-là. Mais en gros, on nous a poliment et gentiment donné une fin de non-recevoir. Mais effectivement, pour nous, le tram ne doit pas... l'analyse que fait Urbagora, c'est que le tramway, c'est très bien, mais que ce n'est pas suffisant. Un tramway seul n'est pas suffisant. Et dans des villes où moi, j'ai grandi dans une ville où j'ai vu développer un réseau de tram, puisque j'avais 10 ans quand la première ligne a été inaugurée à Montpellier où j'ai grandi. Maintenant, il y en a 4 et la 5e est en chantier. Au moment où la première ligne 1 a été inaugurée, on était déjà en train de débattre du tracé dans le détail. Je ne parle pas du tracé général. On était en train de débattre mètre par mètre du tracé de la ligne 4. Et c'était cette ambition-là qui fait qu'aujourd'hui, le réseau de transport public de Montpellier est en France un des seuls réseaux rentables. Parce que l'intelligence est là et de dire que ça suffit pas d'amener une technologie ou d'amener une technique, il faut derrière amener une organisation, un mode de fonctionnement. On peut fermer un peu la parenthèse pour revenir sur le...
Je vais vraiment considérer une chose, des 5 grandes villes belges, Liège est la plus mal lotie en termes de développement de transport public performant. Hein. Je crois que peut-être qu'il y a vraiment, les bus, il y a un énorme effort à faire. Bon, bref.
On fera une émission un jour spéciale l'an prochain, vu qu'il y aura sans doute vraisemblablement une saison 2. Je pense que les questions de mobilité me passionnent. Et du coup, peut-être on peut faire le lien entre le vélo et les autres modes de transport en tablant sur la question de l'intermodalité. Parce que, ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est que la plupart des trajets, c'était 4-5 km. Et effectivement, 4-5 km, dénivelé ou pas, c'est largement faisable en vélo. Pour toute personne en condition physique, évidemment, de faire du vélo, ça c'est évident qu'une personne qui est handicapée moteur aura beaucoup plus de mal. Le vélo à assistance électrique va beaucoup aider aussi, etc. Mais pour les gens qui ont des trajets plus longs à faire, avec des ruptures, ce qui impliquerait des ruptures de charge en transport en public, c'est-à-dire des correspondances, etc., c'est parfois plus compliqué. Et donc, comment on peut faire en sorte d'articuler la pratique du vélo pour le dernier kilomètre ou pour les quelques derniers kilomètres, je pense à des nafteurs qui viennent de l'extérieur, ou effectivement, si on habite à 25 km de Liège, faire 25 km de vélo tous les matins en fonction des conditions météo, en fonction du temps disponible, si on a des enfants, etc., c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et on sait qu'un Brompton, un vélo pliable, rentre bien dans un bus ou dans un train. C'est pas le cas pour un vélo classique aujourd'hui.
Oui, je dois quand même aussi souligner, je suis allé à Bruxelles hier et c'est quand même assez facile de mettre le vélo sur le train, ça ne coûte pas très cher. Je pense que, comparé à la France, je pense que c'est plus facile en fait, ici en Belgique. Mais en termes d'agglomération liégeoise, c'est effectivement sur les bus qu'il faudrait trouver un système où on peut mettre le vélo. J'imagine quelqu'un qui habite par exemple Plateau des Hautes-Trixes, il pourrait faire toute la vallée à Flémal, toute la vallée à vélo, prendre un bus en bas, il mettrait son vélo sur le bus et il monterait au Trixes. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a énormément étant donné le relief de Liège. Donc il faudrait trouver des dispositifs permettant de mettre les vélos sur les bus. Je vais à Rotterdam, il y a un tram qui est excellent, qui fait le sud de Rotterdam jusqu'à Den Haag, la Haye, c'est une 20-25 km. Ben, on peut mettre les vélos à certaines heures. Voilà. Quand c'est en heure de pointe, on ne le fait pas.
Oui, la plupart des réseaux de tram modernes, c'est un peu ça. On peut rentrer en heure de pointe.
J'ai vu ça au Canada, Toronto aussi, même principe, on peut mettre son vélo sur le métro. Voilà, il faut trouver des dispositifs qui, à mon avis, ne coûtent pas très cher et qui permettraient d'encourager, surtout dans une ville montagneuse, entre guillemets, comme Liège.
En tout cas, vallonnée, oui. C'était un des arguments qui a poussé un peu Urbagora à prendre position en faveur du téléphérique pour rejoindre la citadelle au centre-ville, enfin via le quartier Saint-Léonard. Dans l'idée, donc pour revenir un peu sur cette idée de téléphérique, c'était le projet qui maintenant a été validé par le conseil communal qui a voté à l'unanimité une motion en faveur de cet outil-là. L'idée était de connecter sur un tracé donc place Vivenice, c'est-à-dire ouvrir la gare de Vivenice, faire une extension du tram qui arriverait jusque-là, un téléphérique qui desservirait dans un premier temps la citadelle, où on a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui transitent tous les jours, que ce soit du personnel ou que ce soit des patients, et derrière la possibilité de prolonger cette ligne de tram sur le plateau pour aller jusqu'à Rotem, avec un échangeur autoroutier, un parking relais qui permettrait justement d'assurer une desserte. Et un des intérêts de ce téléphérique, c'était justement de permettre à tous les gens qui sont sur le plateau de pouvoir utiliser le vélo. Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur le plateau de Sainte-Walburge, c'est évidemment le vélo est une pratique juste impossible si on descend en ville. Pourquoi ? Parce qu'il faut descendre par la rue Sainte-Walburge. Alors descendre, c'est pas très compliqué, ou la rue de Campine. Descendre, c'est encore faisable. Encore que certaines pratiques des automobilistes rendent la chose parfois un peu périlleuse. Mais remonter, c'est une autre paire de manches, évidemment. Alors le vélo à assistance électrique, clairement, va pouvoir aider ça. Mais la possibilité de mettre le vélo dans un téléphérique et en 3 minutes avoir franchi le dénivelé sans risque, sans effort et sans trafic aussi, hein, sans l'inconfort que peut générer de rouler à travers un trafic dans une rue en pente, dans une rue bondée en plus, je pense à la rue Saint-Ouen-Bourge. C'était vraiment un des arguments justement d'Urbagora pour défendre ce téléphérique, c'était de dire c'est un outil d'intermodalité qui permet véritablement à plusieurs modes de transport public, de transport privé par la voiture et aussi d'aménager.
Si tu permets, je reviens à un concept que développe Frédéric Lérand, c'est l'omnimobilité. C'est-à-dire que les mobilités ne peuvent pas être vues de manière cloisonnée. Et dans le futur, étant donné le fait que les gens vont continuer à se mouvoir et que c'est un droit que tout le monde doit avoir, dire. C'est presque devenu un enjeu politique au sens, je reviens au terme, noble du terme.
Ouais, la mobilité,
il faudra combiner les modes de transport. Et donc, il faut tout faire pour que les modes de transport soient combinables facilement. Il y a des questions d'unification tarifaire, il y a des questions de compatibilité entre différents modes de transport. Voilà. Et si on ne l'aborde pas de cette façon-là, ce sont les plus fragiles qui vont en souffrir.
Oui, bien sûr. C'est clair. Peut-être un petit mot pour conclure ce dossier, parce que le temps passe. Une conclusion générale sur une vision optimiste. Le bouquin se veut optimiste sur la reconquête de la ville par le vélo, au niveau mondial et au niveau local.
Oui, 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 parce que bon, de fait, c'est ce que Michel Destré dans l'ouvrage met en évidence, c'est une très très forte augmentation du vélo à Liège. C'est quelque chose qui est en soi extrêmement positif, hein, et qui ne s'explique pas uniquement par des considérations fonctionnelles de performance de mobilité, mais aussi parce que rouler est un réel plaisir. C'est une manière de découvrir la ville qui est, je consacre un petit pavé à cet aspect-là. C'est, pour moi, à mon sens, la meilleure façon de découvrir une ville. Il y a la marche, mais la marche, évidemment, on ne peut pas faire autant qu'à vélo, on ne peut pas voir autant qu'à vélo. Moi, j'ai déjà découvert des villes, l'architecture des villes avec le vélo, c'est fascinant. Donc, oui, je pense que le vélo a un avenir, mais il faut qu'à un moment, on va reparler de cet ingrédient, la volonté politique, un jour, prenne, que la sauce prenne et que, réellement, il y ait une vraie politique du vélo.
C'est une très bonne conclusion et on va souhaiter que pour les prochaines élections communales, le vélo soit un thème central de la campagne à Liège. Merci Pierre d'être venu. Je close dossier par une chanson qui n'a rien à voir mais qui est terriblement actuelle. C'est une reprise de Pierre Perret par Idir, c'est La Petite Kurde.
وذ يمننا يقين أثنى نموثنا السقين وذ يزنزن لصلح كان يقلوحان سيثي كايتي لين يريم ذنان وإذاك يقبغان كان يصرديان نانا نصقم ثمورث الدور انت زمورث أتمكين وياضك نرثمثان Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Il faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient sans autour de ma maison. Au mur il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair, et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre, ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant, dehors on entendait hurler maman. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclos, la fleur d'un géranium. Dernier hommage qu'il ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos, implora la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient en des plumes. Et maman sur son lit ne criait plus. Le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets, la mort faisait ripaille jusque dans mon jardin, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons, et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Et croyons la patrie,
prétexte est faillible. Combien de vies pour un puits de pétrole? Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot.
L'erreur est trop belle.
Et voilà, vous êtes sur 48FM et vous écoutez les quelques dernières secondes de L'Erreur est urbaine, l'émission consacrée à la ville, produite par Urbagora et animée par Mes Soins. Je vous souhaite à tous un excellent appétit et surtout, je vous précise que nous sommes en vacances et que du coup, c'est la fin de cette première saison de L'Erreur est urbaine. On reviendra l'an prochain avec, à mon avis, un format un peu renouvelé. On est en train un peu de réfléchir à quelle formule, avec peut-être un rubriquage un peu plus précis, avec des chroniqueurs peut-être un peu plus régulier et sans doute aussi en direct. En tout cas, tout ça doit être encore pensé, réfléchi. Si vous avez des idées, des suggestions, si vous avez envie vous-même d'animer une chronique sur cette émission, vous n'hésitez pas, vous nous contactez via le Facebook de L'Erreur est urbaine ou par mail à l'adresse suivante baptiste.boulier@urbagora.be. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer tous vos retours, vos suggestions, etc. On est absolument preneurs, on aura besoin d'un soutien à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, en régie, en technique, en réseaux sociaux, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir d'animer toute cette année cette émission et j'espère vous retrouver à la rentrée prochaine. Voilà, une très bonne journée à vous, un excellent week-end et je vous dis d'ores et déjà à l'an prochain.
L'erreur est trop belle.